Bon matin tout le monde. On dirait que le froid ne se décide pas de partir et on a quelques journées un petit peu plus doux, puis ça revient en force. Ce n'est pas grave, on s'attend de ça, c'est l'hiver. On pourrait toujours dire que ça pourrait être pire. Il y a deux semaines que je vous ai lancé un défi. Je vous avais posé une question, et puis Paul en a parlé un peu la semaine dernière en nous parlant de le plan de rédemption qui était préfiguré pour nous dans la construction du tabernacle dans le désert. On le connaît souvent comme le tabernacle de Moïse. Et ma question pour vous était: qui est celui responsable pour la construction du tabernacle? Comment? Bezalel? Oui. Il y a quelqu'un qui a fait ses devoirs, c'est bien. Écoute, je ne vous blâmerai pas du tout, parce que je ne me blâmerai pas du tout, c'est parce que moi aussi, comme vous, comme la majorité de nous, on est porté de dire, bien, le tabernacle, c'est le travail de Moïse. C'est Moïse, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, qui a reçu justement le plan du tabernacle. Comment le faire, les dimensions, le matériel, tous les détails, et le culte qui se ferait au tabernacle, les offrandes, les fêtes, le culte, on pourrait dire, du peuple d'Israël dans le désert. Il a reçu tout ça, mais il n'a pas été donné la charge de tout faire. Ce n'est pas lui qui a eu la responsabilité de le construire. C'est un peu comme si David, lui aussi, avait à cœur d'être celui qui bâtirait le temple. Mais Dieu lui dit non, ce ne sera pas toi. Ce sera Salomon, ton fils, qui va le faire. Mais David, il avait sa main, premièrement, pour ramasser le matériel nécessaire, les trésors nécessaires, hein, tout l'or et toutes les pierres précieuses et tout ce qu'il avait besoin pour construire ce temple. Mais c'est Salomon, finalement, qui l'a fait. On est porté à se rappeler des grands noms dans la Bible, comme Moïse, Noé, Abraham, Paul, Pierre, les différents apôtres, parce qu'on lit beaucoup à leur sujet. On va lire les versets de Exode chapitre 31, les versets 1 à 5. Mais avant d'aller là, j'ai une tendance de faire ça, je cours en avant de moi-même. Je vais me calmer un peu. Quand on regarde le temple, voici les objets principaux pour lesquels Bezalel était responsable. Tu vois, on le connaît tellement peu qu'on a même la misère à prononcer son nom. Bezalel. C'est Bezalel qui était vraiment responsable pour tout ce qui avait à être construit, qui demandait quand même un travail d'art, artistique. Hein, on pourrait dire, lorsque Dieu avait donné à Moïse le plan pour le tabernacle, il n'a pas fait ça vraiment, le mot anglais m'arrive, plain, simple, ordinaire. Il a fait de quelque chose vraiment spectaculaire, quelque chose très symbolique, très orné, fait de pierres et de matériaux précieux comme de l'or et de l'argent. Ça prenait quelqu'un qui avait la capacité d'être doué dans ces choses. Voici les versets. Exode chapitre 31, les versets 1 à 5, c'est la première fois qu'on voit le nom de Bezalel. au verset 31, on lit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, pour savoir toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc, on voit que Dieu n'utilise pas juste les grands noms, les grandes personnes. Même que si Moïse figure comme un homme très important dans l'histoire d'Israël, surtout dans le livre d'Exode et la sortie d'Égypte, et puis l'installation de ce peuple pour être prêt pour entrer dans le pays promis, on a une tendance de se rappeler de ceux-là, puis on, des fois, on leur attribue même des choses qu'ils n'ont même pas faites. Moi, ça m'encourage que Dieu agit par des personnes tout à fait bien ordinaires comme nous, que Dieu va équiper pour faire un ministère. Parfois, mes étudiants à Emmaüs vont me écrire dans leur requête de prière, « Priez pour mon ministère. » Puis dans ma réponse, je leur rappelle souvent, « Je vais prier pour le ministère que Dieu t'a confié. » Ce n'est pas ton ministère, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le nôtre. L'Église, on est membre de l'Église, mais ça ne nous appartient pas, dans le sens que c'est l'œuvre de Christ. C'est Christ qui est la tête, c'est lui qui forme l'Église. C'est lui, comme Paul nous a rappelé, nous a prédestinés à faire et être membres de l'Église, à laquelle nous avons répondu oui, nous voulons l'être. Dieu agit par des personnes qui sont souvent peu mentionnées, rarement prêchées. Peut-être c'est la première fois que vous avez une prêche sur la personne de Betsaleël. Presque inconnu du grand public. Si tu arrives à quelqu'un, un étranger, puis tu leur demandes, sais-tu qui c'est Moïse? Ah oui, je pense qu'un gars de l'Ancien Testament, là, c'est pas lui qui a ouvert les eaux, là, puis a marché à travers. Parce qu'on l'a tout vu sur Hollywood, là, on l'a vu les films de Moïse qui traverse la mer Rouge, puis et c'est pas mal spectaculaire. Si on leur mentionne l'apôtre Paul, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, il était un gars pas mal important, lui, hein? Mais si on le demande, ça serait quasiment comme dans un jeu de quiz, là, de, comment on appelle ça, là? Hein? Ah! Oui, c'est ça, Jeopardy ou Trivia, ouais, c'est ça, le Trivial Pursuit, il y avait toujours des questions, mais ça serait une bonne question, qui est Betsaleël? Mais on voit que quelqu'un d'inconnu, qui est rarement prêché, qui est peu mentionné, il est indispensable à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Betsaleël fait partie de ces acteurs qui ne meurent jamais. On en parle encore aujourd'hui. On ne le voit jamais prêcher. Il n'y a pas un de ces mots qui nous ont été donnés. On parle de lui, mais on ne l'entend jamais parler. Ce n'est pas lui qui dirigeait le peuple. Il avait peut-être la responsabilité de gérer quelques-uns des ouvriers qui avaient la tâche de lui aider dans la construction du temple, ou le tabernacle, je veux dire. Et sans lui, bien, c'est sûr que le tabernacle n'existe pas. Dieu l'avait choisi. Juste pour vous montrer jusqu'à quel point on en connaît très peu de lui, c'est qu'on voit ici, on va voir 8 versets dans lesquels il est mentionné où on parle de lui. Des fois, c'est pas son nom qu'on lui donne. Des fois, c'est le pronom qui va remplacer son nom en parlant de lui. Il y en a juste 8 versets. Est-ce que vous savez combien de fois le nom de Moïse apparaît dans la Bible? Si vous avez une belle concordance, là, mais aujourd'hui c'est facile, on le met sur Google. Mais dans le vieux temps, on avait des gros livres épais de même, là, la concordance Strong, puis Moïse, puis là, on tournait les pages, puis on tournait les pages, puis on y comptait à mitaine. 844 fois. 844 fois, on voit le nom de Moïse dans la Bible. On le voit dans l'Ancien, dans le Nouveau. C'est un gars qui est bien connu. Mais Betsaleel, 8 fois. Dans le livre d'Exode, dans le verset qu'on vient juste de lire, le verset 2 du chapitre 31, on voit que Dieu appelle Betsaleel par son nom. C'est Dieu qui l'a choisi. Sans que ça soit écrit, il y a aussi le côté que Betsaleel a répondu oui. Dieu l'avait choisi, mais Betsaleel, il avait besoin de lui répondre oui, Seigneur. On voit dans Exode 31:3, où ce que Dieu le remplit de l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu. Pas comme nous aujourd'hui dans l'Église où ce que, au moment qu'on accepte le Seigneur comme notre Sauveur, personnel à nous, à ce moment même, le Saint-Esprit vient nous habiter. Et puis le Saint-Esprit va nous sceller comme membres de l'Église. Puis on ne peut pas perdre ça. On est scellé de l'Esprit-Saint. Dans l'Ancien Testament, souvent c'était l'Esprit-Saint qui était donné à un qui pouvait lui tomber dessus pour, des fois, un temps limité, des fois pour des longues périodes, des fois pour des très courtes périodes. On se rappelle au moment où ce que Saül fut loin de l'Éternel, choisi de l'Éternel, il était rempli de l'Esprit. Mais à sa désobéissance et au choix de David, Dieu retire son Esprit. Puis on sait qu'en lisant l'histoire de Saül, combien que sa vie avait changé le moment que l'Esprit lui avait quitté. Il s'est même rendu dans les sciences occultes pour essayer de faire la divination, pour savoir le futur. Ce n'est pas une personne qui est remplie de l'Esprit qui va aller chercher une sorcière pour lui dire le futur, faire de la divination. Donc l'Esprit-Saint dans l'Ancien Testament, il était bien là et puis il œuvrait, c'est sûr, parmi nous les hommes. Mais de pas la même façon qu'aujourd'hui, comme dans l'Église, on le reçoit intérieurement à nous. Paul nous a expliqué la semaine dernière dans l'image de la rédemption que soit le tabernacle ou plus tard le temple était le lieu où ce que Dieu demeurait. Et il a fallu se rendre au temple ou au tabernacle dans le désert pour avoir une communion avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'était pas omniprésent, mais il faisait déclarer son culte et la relation entre lui et son peuple de façon très visible, très locale. On voit le peuple se rendre à Jérusalem dans le Nouveau Testament. Les gens venaient à Jérusalem parce que le temple était à Jérusalem. L'Éternel était à Jérusalem. Pas de la même façon que Dieu agit dans l'Église aujourd'hui. Exode 35, 30, Moïse rappelle l'appel divin de Betsaleel. Donc, Moïse a dit au peuple, c'est lui que Dieu a choisi, parce qu'il y en a plein qui se sont présentés pour faire le travail. Israël était de bon cœur, ils avaient donné de leur richesse jusqu'au point où ce que Moïse a dit, wow, c'est assez, on a assez, là, amenez plus rien, là, on a trop. On a tout ce qu'il faut. Israël était derrière le projet. Israël était de bon cœur pour participer. Et puis, j'imagine, il y en avait plusieurs qui se sont présentés pour faire le travail, le privilège de faire ce travail, de voir construire le tabernacle. Il y avait sûrement des personnes qui étaient douées dans les arts, à travailler le métal, à travailler le bois, mais Dieu avait choisi et équipé Betsaléel, et Moïse doit rappeler au peuple, c'est lui que Dieu a choisi pour le faire. Donc, écoutez-le. Il va vous dire comment faire, quoi faire. Exode chapitre 36, au verset 1, Betsaléel commence l'œuvre du tabernacle. Là, c'est le travail il commence, puis là, la Bible nous dit, c'est lui qui commence. C'est lui qui commence le travail. Moïse avait plein d'autres choses à s'occuper. Dieu avait choisi un pour être le contremaître, pour être le boss, puis c'est lui qui avait choisi, pas Moïse. Et le travail commence en Exode 36. Exode 36, au verset 2, on voit ici encore un rappel de ce qu'on a vu dans le verset 2 du chapitre 31, que Dieu lui a donné sagesse et intelligence. Il avait reçu un don en particulier, le très spécial. On vient vraiment maintenant très précis en Exode 37, où ce qu'on voit, Betsaléel qui est en train de fabriquer l'arche de l'Alliance. Tu sais, le coffre sur lequel était, en français, je ne me rappelle plus, Paul nous a dit, le quoi? Propitiatoire. Je ne peux même pas le dire. Propitiatoire. Mercy seat. Sur lequel il y avait deux chérubins, où ce que la présence de Dieu y était. Mais l'arche, c'était vraiment juste un coffre dans lequel il y avait des objets de placer. Et Betsaléel est en train de le fabriquer. C'était fait de bois, mais recouvert d'or. 38-22, en Exode, nous dit, Betsaléel exécute tout ce que l'Éternel a ordonné à Moïse. Donc, il accomplissait le travail. Ce n'était pas juste l'arche de l'Alliance qui était responsable, c'était tout ce qu'il avait à faire. Dans le livre de Chroniques, on voit son nom mentionné encore une fois, tout simplement pour nous dire où il se place dans la généalogie du peuple d'Israël. Betsaléel est mentionné dans la généalogie de la tribu de Juda. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qui est dit. On peut inférer certaines choses, dans le sens que si on voit quelqu'un qui est contremaître, responsable, bien, c'est sûr qu'il y a de la planification, il y a du leadership qui est inclus, là, parce qu'il faut motiver des gens pour travailler, pour aider dans le travail. Mais une fois que tout a été fait, la Bible nous raconte une chose. Lorsque Betsaléel avait été fini de faire les objets nécessaires pour le culte des Juifs, c'est Moïse qui l'assemble là. C'était la responsabilité de Moïse de prendre tous les objets et de dire, bon, on va placer ça ici, on va faire ça, on va monter ça, on va aller mettre les rideaux ici. Je ne sais pas si Betsaléel, ça l'a comme surpris, il fait tout le travail, mais finalement, celui qui a la charge de le faire monter, c'était Moïse. C'est peut-être la raison, des fois, on pense en lisant la Bible, que c'est Moïse qui est l'architecte. Et puis celui qui l'a bâti, parce que c'est lui finalement qui va le faire monter. Mais c'était tout prêt là. Betsaléel l'avait tout préparé en avance. Donc il y a certaines observations importantes, même si c'est mentionné peu de fois, son nom. À chaque fois qu'on mentionne Betsaléel par rapport au travail qu'il avait à faire, c'est que c'est un homme qui obéissait. Il l'a fait de la façon qu'il a été dit par Dieu de le faire. Il a reçu ses instructions et les dons nécessaires pour le faire. Il n'a pas décidé les petites fleurs puis les choses qu'il y avait sur la lampe, quand on lit les détails, il y a plein de petits détails, des petites pommettes, des petites fleurs, des petites feuilles, puis c'est toutes sortes d'affaires. C'est tout expliqué combien, puis tu sais des fois, on se perd dans les détails qu'on essaie d'imaginer que ça pourrait avoir l'air. Il aurait pu dire, bien, il semble qu'au lieu des pommettes, on aurait pu mettre des rosettes. C'est plus beau, c'est plus artistique. Non, non. Il n'avait pas d'idée de faire à sa volonté. Il a tout simplement obéi à ce que l'Éternel lui avait donné. C'est un des rares personnages héroïques de la Bible où ce qu'on ne voit pas de défaut. Moïse, on connaît ses défauts. Est-ce que ça veut dire Bezaleel était parfait? Non. Mais on voit que lorsqu'il a reçu la vocation de faire le travail pour bâtir le tabernacle, Dieu, dans son témoignage de sa personne, n'a jamais rien à nous dire que Bezaleel a fait une erreur ou qu'il a pris le méchant bord ou qu'il a décidé lui-même quoi faire. Il a été obéissant. Il n'y a jamais un échec qui nous est rapporté, jamais une faute. Bezaleel n'est pas connu pour ses paroles. Ce n'est pas un Paul. Paul, on regarde ce que Paul dit, puis c'est là où on est enseigné, on sait comment agir, on sait comment vivre en Église. Parce que Paul avait des mots importants. Bezaleel n'avait pas de mots. Il avait juste les œuvres qu'il a accomplies avec ses mains. C'est vraiment une belle illustration d'un principe qui est quand même assez ancienne, puis qui nous est rapportée dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de mots pour honorer un serviteur fidèle. Bon, on va aller maintenant dans juste quelques détails pour finalement arriver à une application pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de connaître le nom de Bezaleel? Bien, si ça nous a été donné, c'est pour nous un exemple. Qu'est-ce qu'on peut être? Premièrement, on voit que Dieu avait appelé un homme que personne d'autre peut-être s'attendait. Si on aurait passé un vote, Aaron, puis les chefs des tribus, les anciens, s'ils auraient fait une réunion, là, on va se réunir là, dans nos tentes auprès à côté de la montagne du Sinaï, puis on va faire une réunion, là. Puis on va faire des décisions. Puis peut-être il aurait dit, on va nommer qui comme chef. Puis là, bien, je propose, puis je seconde, puis tu sais, c'est un peu à la manière qu'on fait nos CA. Il ne faut pas oublier, le CA, c'est une responsabilité auprès des gouvernements. S'il y a cette structure-là, puis etc., là, pour la transparence des finances, tout ça. Là. Mais est-ce qu'on a eu une réunion pour choisir les anciens? Non, on a reconnu dans certaines personnes qui sont les anciens. Ça n'a pas été un vote. On n'a pas fait, qui vote pour lui, qui vote pour un autre. Hein? Ce n'est pas toujours démocratique, l'Église locale. On ne fait pas toutes les choses par un vote. Puis il n'y avait pas question de réunion puis faire un vote pour choisir Bezaleel pour le travail de bâtir le temple. Je dis tout le temps le temple, mais on parle du tabernacle. Il n'y a pas eu de réunion. On n'a pas choisi un. Même avant que le peuple connaisse le nom de Bezaleel, Dieu le connaissait. Et Dieu l'avait choisi. La Bible ne nous donne pas les détails pourquoi il a été choisi. De la même façon que la Bible ne nous donne pas la raison pourquoi Marie avait été choisie pour enfanter l'enfant Jésus. Dieu, dans sa souveraineté, choisit. C'est la même idée derrière l'idée de la prédestination. Mais qui se conjugue en même temps avec la responsabilité de la personne de répondre. C'est là où l'enjeu entre les deux. On en parlait justement mardi dernier à l'étude à Relais. La prédestination, puis le libre arbitre, le choix. Puis Paul nous avait rappelé la semaine dernière que c'est comme deux rails sur une voie ferrée. Qui courent en parallèle deux pensées, deux vérités qui ne s'alignent vraiment jamais. On ne peut pas les réconcilier parce que d'un côté, Dieu choisit, mais de l'autre côté, Dieu s'attend de nous une réponse. On ne sait pas pourquoi il avait été choisi, mais une fois qu'il a été choisi, il reçoit la responsabilité de préparer le lieu où ce que Dieu habiterait, afin que Dieu puisse demeurer parmi son peuple. Ce que Dieu bâtit intérieurement est souvent plus durable de ce qui est visible extérieurement. Donc, Dieu l'a appelé par son nom. C'était un homme de, qu'on ne le sache pas, là, on ne le sait pas, qui a une tribune là, qui était comme peut-être bien reconnue ou non, on ne le sait pas. Son nom apparaît, on lui dit que Dieu lui avait donné l'esprit, puis le travail commence. Mais il y avait une mission. Il y avait un don spirituel souvent qui était mal compris. Il était rempli de l'esprit pour travailler de ses mains. La Bible nous dit que Dieu l'avait rempli avec sagesse, intelligence, de savoir-faire et la science, justement, pour faire toutes sortes d'ouvrages. Donc, on a aujourd'hui peut-être des fois une mauvaise pensée par rapport aux dons, ceux qui sont les plus voyants, ou ce qu'on a une tendance de les placer comme étant les plus importants. Mais voici un qui travaillait avec ses mains. Ce n'est pas un prédicateur. On a une tendance d'élever les anciens ou les prédicateurs ou tu sais, les missionnaires, etc. Puis des fois, on a pas un dédain nécessairement, mais on trouve que c'est moins important pour ceux qui vont peut-être servir comme diacres ou diaconesses, qui font un travail pratique auprès de l'Église. Tantôt, on a mentionné les rideaux, puis c'est vrai qu'ils sont belles ou beaux. Un rideau, oui, beau, un des beaux rideaux. Mais ça, ça a fallu que quelqu'un prenne le temps de le coudre, puis on sait qui l'a fait. Ce n'est pas pour la glorifier non plus, mais on est content qu'il est doué pour faire ça. Là. Moi, avec une machine, là, je peux rien. Vous avez juste à demander à Muriel, là. Je suis porté à mettre des choses qui sont déchirées à la poubelle au lieu de les faire réparer, parce que si c'est à moi à réparer mes culottes ou ce que c'est toute défaite, là. Parce que même Muriel n'a pas le don pour ça, elle n'aime pas ça. À 16 ans, elle a eu une machine à coudre. Puis je pense, on l'avait encore à la maison quand on a eu le feu, mais je pense que ça n'a jamais sorti du cabanon où ce qui était depuis qu'on est déménagé ici. C'est pas grave, c'est pas tout le monde qui est doué. Mais ça prend des personnes qui sont douées avec leurs mains pour faire du travail qui, des fois, on ne sait pas le nombre d'heures. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça coûte une personne de faire un projet comme les rideaux, comme d'autres choses? C'est juste un exemple que je voulais vous donner. On a une tendance d'oublier ceux qui font ces travaux-là où ce que des fois ça passe inaperçu. On prend presque pour acquis. On vient ici le dimanche matin puis on chante des cantiques. Mais ceux qui sont responsables pour la louange, là, il y a une réflexion, le choix dans les chants, la pratique, pour jouer les bons accords puis jouer comme il faut, puis savoir combien de fois on va répéter ce verset-là, puis comment on va finir, etc. Là. C'est des pratiques, c'est des gens qui se rencontrent pour être prêts pour dimanche. Ils n'arrivent pas le samedi soir pour décider, bon, on va faire ces cinq chants-là, puis ah ouais, on va y aller. C'est du travail. C'est une vocation, c'est un don qui est donné pour mettre au service de l'Église, puis on apprécie ça, mais des fois on oublie que celui qui prépare les chants, ou qui se pratique au piano, ou qui se pratique à la guitare, sont aussi importants que la personne qui va apporter la parole. Paul le savait lorsqu'il nous a partagé l'image de l'Église étant un corps. Il nous rappelle, c'est pas l'œil qui va dire à l'orteil, là, toi, tu es un vaurier, tu te fais juste donner un peu de balai, là. Mais l'orteil, il est content de dire oui, mais le balance est important. On a une tendance de trouver des choses comme de me faire une hiérarchie d'importance et tout ce qui est voyant. Puis si on les énumère, les différents dons, là, il y en a qui sont voyants, puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus cachés. Donc, on appelle ça les dons discrets. Des fois, on n'en entend pas parler, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Le ministère d'aide, de ceux qui aident les autres, souvent, c'est fait en secret. L'hospitalité, la libéralité de donner avec générosité, la miséricorde, sagesse, discernement dans l'accompagnement de quelqu'un, l'encouragement, exhortation, administration, fidélité, le pastorat d'accompagnement, l'intercession, la foi. Ce sont tous des dons qui sont donnés à certaines personnes dans l'Église où ce que il n'y a pas personne, des fois, qui sait vraiment qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Parce qu'on est porté de voir les choses qui sont plus voyantes, les dons qui sont visibles. Celui qui fait la prédication, l'enseignement, on appelle ça aussi dans le don de prophétie. Être apôtre ou missionnaire, pas dans, apôtre comme dans le terme du premier siècle, les 12 apôtres. Mais les apôtres aujourd'hui, ce sont les bâtisseurs d'églises locaux, ceux qui sont missionnaires, qui vont aller faire de l'évangélisation et de voir des églises bâties, établies. Ça, c'est l'apôtre. Un évangéliste, un enseignement, surtout dans un ministère qui est public, la foi qui est manifestée de façon exceptionnelle, et aussi les charismes, comme parler en langue, interprétation des langues, guérison et miracles. Ce sont des choses qui sont visibles, puis on a une tendance d'élever les personnes qui ont ces dons-là pour, comme étant plus importants. Puis des fois, c'est qu'on oublie ceux qui font les petites choses, de les remercier, de les bénir. Parce que l'Église, elle roule bien, parce qu'il y a des gens qui sont impliqués. Donc, il ne faut pas mépriser les dons discrets. Bessaléel avait un don qui lui avait été donné de Dieu avec la sagesse pour faire quoi? Bâtir les objets du temple ou les objets du tabernacle. Puis Dieu l'avait doué pour le faire. Je ne sais pas quel niveau de talent qu'il y avait avant que Dieu lui donne ce talent-là pour faire exactement ce que Dieu voulait pour son tabernacle. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène finalement que Bethléem était indispensable. Sans lui, là, ou sans son obéissance à sa fidélité, d'exercer le don qu'il avait reçu, bien, Israël aurait été appauvri. C'est là l'application pour nous. C'est ça qui est important pour nous. Le Seigneur nous dit dans sa parole que chacun reçoit un don ou des dons. Vous en avez un? Peut-être c'est un don discret. Le Seigneur t'appelle à un ministère qui est très discret où ce que tu es une personne qui encourage, une personne qui démontre l'hospitalité, une personne qui est ouverte à faire de la visite, de se rendre chez quelqu'un pour encourager quelqu'un. Il y en a que ça ne les gêne pas d'aller rencontrer du monde, d'aller visiter les malades à l'hôpital, etc. Là. Il y a plein de ministères. Peut-être votre don, c'est un don discret. Mais c'est encore important. Là. C'est plus qu'important. Parce que si vous n'exercez pas le don que vous avez reçu, l'Église est appauvrie. Le moyen que l'Église touche le monde à l'extérieur de ces quatre murs ici, là, c'est en exerçant les dons qu'on reçoit. Puis souvent, ce sont les dons qui sont les plus discrets, qui sont les plus importants dans un milieu où ce que l'Évangile doit se répandre dans notre communauté. Ce n'est pas tous les dimanches qu'il y a des gens qui sont nouveaux, qu'on ne les a jamais vus, qu'on prêche l'Évangile. Mais j'espère que s'il y a deux semaines qui ont passé sans avoir un nouveau ici, là, qu'il y a des gens qui ont quand même entendu l'Évangile. Parce que vous étiez là, à l'extérieur, parlant de Jésus-Christ qui est sauveur. Puis souvent, c'est fait de façon très, très naturelle. Ce n'était pas mon fort. Ça, je vous ai expliqué plusieurs fois. L'évangélisation, un à un, ce n'est pas mon fort. Mais avec le feu, j'ai appris que ça peut devenir un fort. Ça peut devenir plus naturel pour moi. Si les gens vous demandent comment vous allez, mais dites-leur, mieux que je mérite, puis ça va déjà déclencher une conversation que tu peux tourner facilement pour remercier le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, puis de dire aux autres qu'est-ce que le Seigneur fait dans ta vie, l'importance de ça dans ta vie. C'est qu'est-ce que le Seigneur m'a appris. Dieu encore aujourd'hui appelle des Betseléel dans l'Église locale. Des personnes que Dieu va donner un don, puis il va les douer avec intelligence, sagesse et toutes les choses dont il avait besoin, mais nous les avons aussi besoin pour toucher les gens autour de nous. Pour moi, ça a été un chum à la petite école. Bien, petite école. En Ontario, c'était la septième année, donc c'était le secondaire. Secondaire 1. Il y en a un qui a eu assez de confiance pour dire, « Hey, Richard, veux-tu venir à une rencontre de jeunesse? » Si Michel ne m'aurait jamais dit ça, là, Michel Comtois, un de mes grands amis maintenant qui est pasteur dans les prairies là, au Manitoba, il est pasteur au Manitoba, s'il n'aurait pas pris le temps de me dire « Hey, veux-tu venir? » On aurait beaucoup de plaisir. Je ne serais peut-être pas ici. Je serais peut-être sauvé, je ne sais pas. Puis là encore, l'attention entre cette idée de la prédestination, puis l'appel, la responsabilité de répondre oui. Je ne comprends pas comment ça se travaille, mais je sais que Dieu a utilisé ce jeune homme pour m'inviter à une activité, un vendredi soir, qui est devenue une activité de toute ma vie. Mon ami Michel, c'était mon Betseléel dans ma vie. C'était celui que Dieu avait choisi pour me parler du Seigneur en premier. Puis après ça, il en a utilisé 20 d'autres. Là. Et ça commençait avec un. On est tous appelés. À tous les enfants de Dieu, tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur personnel, sauvés par la grâce, nos péchés pardonnés, il n'y en a pas d'un de nous qui peut dire « j'ai pas été appelé à quelque chose ». On a tous été appelés à quelque chose. Si vous ne savez pas que c'est quoi votre don, demandez au Seigneur de vous le montrer. Et soyez pas gênés de demander à ceux qui vous entourent, ils vont vous le dire c'est quoi votre don. Ils vont le voir avant que tu le vois toi-même. Une fois que tu le sais, c'est quoi ton don? Mais là, tu dis au Seigneur, bien, OK. Tu as été très spécifique avec Betseléel, tu lui as donné une mission très, très spécifique par rapport à qu'est-ce qu'il avait besoin dans le tabernacle. Il avait choisi pour faire ce travail-là. Mais Seigneur, c'est quoi mon travail? Qu'est-ce que tu me demandes à faire? Qu'est-ce qui serait à ta gloire, Seigneur? Comment puis-je exercer mon don? C'est pour chacun de nous. Si vous vous rappelez de quelque chose en sortant ici ce matin, c'est de rentrer dans la semaine qui est devant nous et dire, Seigneur, comment puis-je te glorifier cette semaine? Je ne sais pas si vous, il y en a un d'entre nous qui était au camp avec M. Hodewood. Puis lui, il avait toujours des histoires à raconter. Puis quand il racontait ses histoires, la façon qu'il commence sa journée, c'est de marcher en priant le Seigneur. Puis il disait tout à Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il voyait la main de Dieu dans tout ce que Dieu voulait faire. Mais il voyait aussi que Dieu voulait lui utiliser pour faire quelque chose. Puis c'est sa façon qu'il commençait sa journée. « Hey, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? » Demain matin, en vous levant, demandez-vous, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, tous les deux? Mets quelqu'un sur mon chemin, Seigneur, que je peux partager l'Évangile. Donne-moi quelque chose où, tu sais, on connaît une situation, on sait où est-ce qu'il y a un besoin, là, ça vient nous toucher, ça frappe nos cœurs, on en pleure presque, puis on veut aider quelqu'un, mais on est résolu, puis on va voir la personne. On apporte de l'aide. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui vit dans le deuil, quelqu'un qui vit des choses affreuses, puis nous, on peut leur encourager. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qui allons-nous encourager aujourd'hui? Qui allons-nous bénir aujourd'hui? Seigneur, il ne tardera pas à te le montrer. Il va t'équiper comme il a équipé Bethsaléel pour glorifier l'Éternel dans tout ce que nous faisons. Prions. Seigneur, ce matin, on a rencontré un personnage, un acteur qui n'est pas mort, Seigneur, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, on le lit dans ta parole, qu'est-ce qu'il a fait. Seigneur, je sais qu'on a une tendance de placer plus d'importance sur un ou sur un autre, dépendamment de la responsabilité qu'ils ont, ou peut-être comment que c'est voyant, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais Seigneur, donne-nous de toujours nous rappeler, Seigneur, que dans la parabole du bon samaritain, il y en a un qui est tombé sur quelqu'un qui avait besoin de l'aide, puis il l'a aidé. Seigneur, il y a des gens sur notre chemin que tu places afin qu'on puisse les bénir. Seigneur, si on demande un réveil dans ton Église, Seigneur, mais c'est parce qu'on doit être prêt à nous réveiller nous aussi. Merci, Seigneur, du travail que tu fais dans notre assemblée. Bénis, Seigneur, la semaine qui est devant nous. Donne-nous, Seigneur, que nous sommes ton Église. Et Seigneur, que la lumière de cette assemblée puisse briller au-delà des portes et des murs de cette église, ce bâtiment. Bénis-nous, dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen.